Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le magazine Femina de VOA Afrique.
Oser prendre des initiatives hors du commun, oser sortir de l'ordinaire. Penser différemment et faire la différence. Les femmes africaines qui se lancent, voire se risquent dans de telles aventures sont nombreuses, mais on en parle peu. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge avec vous pour en parler justement avec des invités. Mais avant, je voudrais préciser que le magazine Au Féminin passe en direct sur le Facebook de VO Afrique grâce à Jean-Louis qui filme l'émission. Donc à vos ordinateurs, vos tablettes, vos smartphones, hein, si vous le pouvez, pour être avec nous et commenter ou poser des questions à nos invités. Alors dans le studio 13 de La Voix de l'Amérique, Paulette Mpuna, entrepreneur américano-camerounaise, créatrice de jeux de société taillés sur mesure, n'est-ce pas, pour promouvoir l'Afrique et la culture africaine. Paulette, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de m'avoir invitée.
Nous avons également une autre invitée en ligne à Abidjan, je crois, une partenaire de Paulette, Akissi Bernadette Kwame Dia, artisane qui emploie 4 jeunes filles pour la confection de poupées en tissu dans sa boutique du nom de Nulle part ailleurs. Akissi, merci d'être avec nous.
Merci madame.
Alors j'ai dans les mains, pour ceux qui peuvent le voir, qui peuvent nous suivre sur Facebook, une des poupées confectionnées par Akissi, une très belle poupée. Et voilà, donc ça permet de montrer un petit peu votre travail. Alors Paulette, on va parler de vos jeux. Ils sont là également, étalés, enfin certains, parce que vous en avez créé 11, je crois.
Exactement.
Donc, en voici certains, un en particulier sur la table, le fameux Afrique en jeu. Alors, il faut préciser que ce sont des jeux bilingues, anglais-français. Et celui-ci, vous allez nous parler tout particulièrement de celui-ci. Peut-être d'abord, pourquoi vous avez voulu créer ce type de jeu? Pourquoi?
J'ai créé ce jeu pour enseigner mes propres enfants sur l'Afrique, parce qu'ils sont nés aux États-Unis et ils n'avaient aucune idée de ce qu'était l'Afrique. Et ils me posaient tout le temps des questions, comment on va à l'école, est-ce qu'il y a des maisons en Afrique? Et ma fille, c'est elle qui m'a vraiment poussée parce qu'elle est revenue une fois et elle m'a demandé si tous les enfants d'Afrique avaient le sida. Et je me suis demandé pourquoi. C'est tout juste parce qu'elle avait vu une vidéo et elle était en maternelle. Là où des enfants d'Afrique avaient le sida, elle a déduit que tous les enfants ont le sida. Donc je me suis dit, il faut qu'ils aient une idée de ce qu'est l'Afrique comme moi je l'ai vécu. Mmh. Donc on a commencé un jeu à partir d'une carte, là où je posais plusieurs questions et avec des réponses pour qu'ils puissent ouvrir leurs yeux sur l'Afrique que moi je connaissais.
Alors on peut le jouer à 3, je vois, il y a 3 pions, il y a
On peut le jouer en fait à 4,
ouais.
Oui, et j'ai réparti les régions en 5 grandes régions de l'Afrique, 4 sur le continent, 5e c'est les îles. Donc les questions portent sur l'histoire, la géographie, la culture. Ouais. Et quand on joue, en fait, on tombe sur une région et la personne a une question. Et si vous répondez, vous pouvez passer à l'autre case. Si vous ne répondez pas, vous devez payer pour manque de connaissances. Et c'était ça que j'essayais de dire à mes enfants, que quand vous ne savez pas, vous payez parce que vous ne savez pas aussi.
Et donc, vous avez des petites cartes avec les fameuses questions.
Oui.
On a d'un côté la carte du pays avec les principales villes, par exemple, le Cameroun, n'est-ce pas? Il y a les pays frontaliers, la capitale, etc. Et puis derrière, il y a les petites questions. Quel pays est appelé, par exemple, en Afrique en miniature?
Oui.
Alors, 2 réponses, République du Congo ou Cameroun.
Oui.
Et c'est lequel ?
C'est le Cameroun.
C'est le Cameroun, oui. Voilà. Donc c'est des questions intéressantes. Vous avez également des cartes avec des photos de costumes traditionnels, par exemple, des célébrités, etc. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai dit sur mesure tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, vous m'aviez dit que vous avez des commandes, par exemple, je ne sais pas, du Kenya ou de certains pays qui veulent des jeux spécifiques adaptés
à leur pays.
Intéressant.
Spécifiques à leur pays ou bien par thème. Je suis en train de finir avec le ministre Olubanke, former ministre. Elle était ministre avant des Finances du Libéria. Un jeu sur l'émergence de leadership africain. Mm-hmm. Donc, c'est un jeu sur mesure qui est basé sur son livre et qui va présenter environ 30 profils de jeunes entrepreneurs africains qui sont déjà sur le territoire et qui disent qu'est-ce qu'il leur faut pour pouvoir améliorer les choses en Afrique. Et c'est très intéressant.
C'est vraiment intéressant.
C'est un jeu de débat et ça sera très intéressant.
C'est vraiment intéressant. Mmh. Alors, vous commercialisez ces jeux aux États-Unis.
Oui.
Ils sont en deux langues, donc ils peuvent être commercialisés dans des pays francophones également.
Oui.
Vous le commercialisez en Afrique.
Oui.
Madagascar aussi ? Non, pas vraiment. Madagascar, c'est autre chose.
Non, ouais. C'est différent parce que l'Afrique reste un terrain encore à découvrir pour ma compagnie à cause des problèmes de distribution. Mais j'ai déjà pu vendre ces jeux à travers une société qui en a pris 300 au Congo et deux personnes en ont pris 200 au Nigeria.
Ouais,
mais il n'y a pas une distribution libre comme je fais aux États-Unis.
Ouais, mais c'est bien. Dites-moi si je me trompe, j'ai retrouvé les chiffres sur votre site. Depuis 2009, vous en avez quand même vendu 6 000. C'est pas mal, ça fait 6 500, ça fait quasiment 1 000 par an finalement.
Oui, 6 500 et on en redemande encore.
Ouais.
Donc c'est bien passé et je viens de produire une application digitale qui sera sur Apple. Donc, ce qui va résoudre un peu le problème de l'Afrique, parce que vous pourrez l'avoir sur votre téléphone partout où vous êtes dans le monde. Voilà.
Oui, et puis j'allais vous dire, est-ce que vous rencontrez peut-être un petit peu le problème de compétition par rapport aux jeux vidéo, justement, au digital ? Ça se perd peut-être un petit peu, malheureusement, ce type de jeu où on a le contact direct avec l'objet, n'est-ce pas ?
Disons que la force de ce jeu jusqu'à présent, c'est un jeu qu'on joue en famille. Il a eu beaucoup de succès aux États-Unis et il continue à avoir du succès parce que les familles, justement, les parents apprennent en même temps que les enfants. Donc, j'ai eu beaucoup de succès aussi dans la diaspora noire américaine, africaine, noire américaine, parce que les parents, en apprenant, jouent avec les enfants. Donc, ça reconnecte la famille et ça donne plus, ça apporte la chaleur familiale, en fait.
Mmh. On va essayer. Je crois qu'on a perdu Akissi. Nous avons Francine.
Oui, bonjour.
Francine, bonjour.
Ouais, bonjour Nathalie.
Comment ça va Francine ?
Ouais, ça va bien, merci beaucoup d'être venue.
Alors voilà, elle s'appelle Francine, je vous la présente. Hein. Francine Mukwaga, c'est une militante des droits humains, originaire de Kinshasa. Francine, psychologue et thérapeute de formation, fait le plaidoyer des femmes victimes de viols en RDC, notamment à travers l'association Friends of the Congo, basée ici à Washington, les Amis de la RDC, dont elle est la représentante en Grande-Bretagne. Alors nous l'avons donc en ligne à Manchester, Francine. Donc, vous êtes active dans le soutien aux femmes victimes de violences, aussi bien en Grande-Bretagne qu'en RDC. Vous œuvrez pour les rendre indépendantes et les connecter entre elles. Donc, on vous écoute. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce projet ?
Oh, merci beaucoup pour votre invitation. D'abord, Nathalie. Moi, je suis activiste des droits humains et je travaille avec Friends of the Congo, des Amis du Congo. Moi, je me suis dit, après un temps, j'ai parlé avec mes collègues, je me suis dit, c'est mieux pour moi parce que de faire quelque chose, de connecter les femmes du Congo, de l'Ouest, de l'Est et de l'Ouest, je crois, central aussi. Je me suis dit, c'est mieux de faire ce qu'on appelle l'autonomisation des femmes à participer pleinement à la vie économique dans tous les secteurs, essentiellement pour bâtir l'économie plus forte et d'améliorer la qualité de vie des femmes de leur famille et leur communauté. Tu sais, dès que ces femmes commencent à gagner quelque chose, je me suis dit, ils seront en mesure de connaître leurs droits et ils seront aussi capables de savoir ce qui se passe dans le monde. Ici, je parle, si ces femmes gagnent quelque chose, ça serait mieux pour elles peut-être d'offrir, d'avoir l'Internet. S'ils ont l'accès à l'Internet, ils sauront ce qui se passe partout dans le monde et je sais qu'ils seront aussi capables de connaître leurs droits. Voilà un peu. Et c'est pourquoi j'ai créé ce que j'ai appelé Kitunga Mama Congolaise. Si je traduis ça en français, c'est le panier de la femme congolaise. Et si je vois panier, je vois la femme, je vois l'Afrique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Francine. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Alors Francine, c'était pour la rubrique Parole de femme. On va passer maintenant à la rubrique entre parenthèses dans quelques temps. Et on va parler à Kissy maintenant. À Kissy, on est parvenu finalement à récupérer à Kissy en ligne. On vous avait perdu à Kissy. Alors à Kissy, moi j'ai montré tout à l'heure la jolie poupée. Alors voilà ce que vous faites entre autres. Les petits animaux aussi. Il y a les petits animaux en raffia. Les poupées sont tissues. Les animaux sont en raffia. Akissi, d'abord, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer votre situation de famille? Est-ce que vous avez des enfants en charge? Quelle est votre situation?
Oui, deux filles.
Deux filles. Est-ce que vous êtes mariée?
Non, j'étais mariée, mais bon, le mari s'est décédé, donc ça va.
Donc voilà, vous vous retrouvez veuve et vous avez donc vos deux filles à élever, c'est cela?
Oui.
Oui. Est-ce que, donc, votre business, il est parti d'où? Vous collaborez, vous êtes partenaire avec Paulette. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Parce que vous embauchez quatre jeunes filles, c'est ça, quatre jeunes femmes?
Oui, quatre jeunes filles.
À Abidjan. Parlez-nous un petit peu de votre business.
Bon, ça va, par la grâce de Dieu, avec la tante Paulette. Comme ça, une fois, il y a une des dames qui a acheté, elle est partie, et puis elles se sont croisées, elle a vu, ça lui a plu tout de suite, et puis bon, elle a commencé à commander un peu avec moi aussi.
Mm-hmm. Est-ce que ça vous plaît?
Oui, ça va, ça va. Si ça pouvait bien marcher pour elle, qu'elle pouvait commander souvent, c'était bon.
Mm-hmm.
C'est pour le transport aussi, c'est pas trop facile pour elle aussi,
oui.
Le transport, pour faire partie des affaires, tout ça.
Oui.
Donc bon, c'est par occasion, quand elle a des amis qui viennent, qui retournent aux États-Unis, c'est bon.
Oui.
On leur donne quelques petits colis.
Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Est-ce que vous en vivez?
Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Au lieu de rester se promener dans la rue, bien, c'est mieux de faire ça, c'est bon. Ça va.
Mm-hmm. Mm-hmm. À présent, on va passer à la rubrique entre parenthèses.
Merci. Parenthèse.
Seuls les adultes peuvent se marier en Virginie aux États-Unis, selon une nouvelle loi qui a fixé l'âge minimum à 18 ans. Alors, près de 4500 enfants de moins de 18 ans ont été mariés en Virginie entre 2004 et 2013, d'après les données du ministère de la Santé de cet État américain. Cela inclut plus de 200 enfants de 15 ans ou moins, dont des filles de 12 ans. Alors, je vous propose d'écouter Nicole Chitam, directrice de la division internationale d'Advocates for Youth à Washington.
C'est surprenant quand on voit ça parce que on pense que ici aux États-Unis il n'y a pas un problème comme ça de mariage forcé, mais en effet ça existe et on se rend compte maintenant avec des études qui sont sorties dernièrement que ça existe et il y a des efforts maintenant pour améliorer les lois comme en Virginie où on a cette nouvelle loi finalement qui limite l'âge de mariage à 18 ans. Donc c'est un progrès. C'est un grand progrès.
Alors 18 ans, et l'on précise que ça peut être 16 ans si l'enfant est émancipé par ordonnance du tribunal. C'est-à-dire que si la fille est enceinte ou qu'elle a le consentement des parents, tout ça, ça ne tient plus du tout.
C'est ça. Les lois avec les exceptions, c'est toujours un peu plus difficile à appliquer. mais il y a moins d'exceptions dans cette loi qu'il y avait avant.
Alors donc, en fait, la loi ne stipulait pas d'âge minimum pour le mariage, c'est ça?
Non, c'est ça. Il n'y avait Incroyable. Pas de minimum. Oui, et c'est une tendance au niveau global, n'est-ce pas? Les pays à travers le monde, il y a une tendance pour améliorer les lois et pour fixer un minimum de 18 ans. Et en effet, beaucoup, beaucoup de pays, et même la plupart des États ici aux États-Unis ont ces lois, mais des fois, il y a ces exceptions qui font que ça ne protège pas comme on voudrait.
Il faut savoir qu'auparavant, une enfant de 12 ans pouvait être mariée si elle était enceinte avec le consentement de ses parents.
C'est ça. Et c'est souvent avec des hommes qui sont des adultes, beaucoup plus âgés.
Donc, cette loi a été votée pour éviter les mariages forcés, pour éviter la traite des personnes et voir les viols déguisés en mariage. Et on peut très bien imaginer que si l'on part d'une violence, les violences continuent une fois que la personne est mariée avec la jeune fille.
Oui, c'est-à-dire le mariage forcé comme ça n'offre pas de protection, au contraire. Donc, les violences, les viols augmentent, c'est un grand problème.
Comment expliquez-vous le fait que ces lois aient été remises à jour aussi tard, au XXIe siècle, aux États-Unis?
Ça, c'est une bonne question. D'abord, aux États-Unis, on voit une tendance pour se marier plus tard. L'âge de mariage augmente. Et donc, peut-être ce n'est pas perçu comme un problème ou une réalité. Mais aussi, je crois que ce qui aurait pu contribuer à ne pas se rendre compte de cette réalité, c'est le manque des informations, études, de documentation. C'est nouveau ici. On a des organisations maintenant qui sont en train de regarder ça et de faire des investigations.
Est-ce qu'il y a d'autres États qui sont dans la même situation?
Oui, en effet, le Maryland, Californie, New Jersey, New York, sont toujours d'autres États qui ont des lois, qui ont des exceptions, qui permettent des mariages forcés comme ça.
Ces États ont introduit des lois similaires ou pour le moins sont en discussion pour la même raison?
Oui, ils considèrent des lois similaires parce que même en New Jersey, par exemple, il y a quand même documentation qui montre qu'il y a eu 3481 mariages forcés entre 1995 et 2012. Et la plupart, c'était des jeunes filles mariées avec des adultes, des hommes plus âgés.
Voilà, c'était Nicole Chitam, directrice de la division internationale d'Advocates for Youth à Washington. Pas qu'en Afrique, n'est-ce pas, Paulette, hein?
C'est vraiment étonnant pour moi, oui. Parce que je n'avais jamais pensé que plus, ça pouvait se faire.
Et en plus, on l'ignore, oui.
Exactement.
Ouais. Et c'est dans la loi.
Et c'est ça qui est étonnant. Ouais.
Et vous avez entendu, c'est pas seulement un seul État, c'est plusieurs États qui sont en train de remettre à jour leurs lois.
Oui.
Ouais. Oui, c'est intéressant, n'est-ce pas?
C'est très intéressant.
C'est intéressant. Le président sénégalais Macky Sall a ordonné début juillet de mettre fin à la mendicité organisée des enfants, appelés talibés, menaçant de sanctions ceux qui les poussent à quémander, notamment les marabouts. Alors ce type d'abus est passible de peine de prison au Sénégal, mais rien n'y fait jusqu'ici. Récemment, 172 enfants ont été retirés de la rue, un effort apprécié mais insuffisant selon les citoyens. Voici un reportage de Sokna Natambay à Dakar.
Les chiffres sont depuis toujours alarmants. Des centaines de milliers d'enfants laissés à eux seuls dans les rues de la capitale et autres villes du pays. La plupart sont des talibés. Avec ce programme d'urgence de retrait des enfants de la rue, l'État veut frapper fort. Nyorobaï Diouf, directeur de la protection de l'enfance.
Nous sommes en train de faire le référencement avec les familles afin de les retourner dans leur milieu d'origine. Mais auparavant, les parents seront sensibilisés sur la nécessité de garder les enfants ou bien au niveau des daras, au niveau des familles, mais pas dans la rue.
Au début du programme, les premiers ont été transférés vers le village d'enfants SOS. Daïmbana Touré, coordonnatrice du projet de réintégration des enfants de la rue et des talibés.
Nous avons reçu 33 enfants issus de 14 familles. Et nous les avons pris en charge. Aujourd'hui, à cette date, les enfants sont tous retournés en famille. Nous les avons nourris quand ils étaient là, logés, nourris. Nous avons assuré leur protection. Et puis nous les avons retournés famille par famille jusqu'à leur foyer. Donc nous savons où ils habitent. Nous avons leurs coordonnées téléphoniques. En tout cas, nous ferons tout notre possible pour garder ses enfants au sein de leur foyer.
Une décision salutaire mais tardive, c'est l'avis de ce père de famille, choqué par l'image des enfants de la rue.
L'État devait prendre cette décision depuis très longtemps pour diminuer au moins la mendicité de ces enfants qui traînent dans les rues. Et puis, une fois que c'est fait aussi, il faut essayer de les mettre quelque part, de leur donner une bonne condition de vie, de les recager.
Malgré plusieurs tentatives de retrait des enfants de la rue, l'État ne compte pas faire machine arrière cette fois-ci. Le président Macky Sall a voulu être clair, ce n'est pas contre les écoles coraniques, mais juste protéger les enfants. Sornana Tambay Dakar, VOA Afrique.
Paulette, votre réaction? Vous en avez entendu parler, bien sûr, de ces enfants.
J'en ai entendu parler. Ouais. Je trouve que c'est une très brave décision parce que quand on voit la souffrance de ces enfants et surtout qu'ils n'ont pas le choix, c'est ça qui est triste.
Oui. On revient sur votre travail. Oui. Donc, on avait montré tout à l'heure, en fait, vous proposez vraiment toutes sortes de jeux.
Oui.
Vous êtes indépendante, en fait, et vous travaillez, vous avez des partenaires, mais vous faites sous-traiter, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on peut savoir, tout ça, c'est fabriqué, ce jeu, il est fabriqué aux États-Unis.
Aux États-Unis, de Africa Memory Game est fabriqué aux États-Unis, mais j'ai des contrats aussi pour des petits jeux. Avec des sociétés d'imprimerie chinoises, parce qu'ils sont plus rapides, donc et deux fois moins chers que.
Mais ici aux États-Unis, non.
Non, celui-là c'est aux États-Unis, celui-là c'est la Chine, donc ça dépend de la qualité que je veux pour le produit.
Oui, ça c'est un petit peu dommage. Vous êtes obligé d'aller de faire du business avec un pays aussi lointain. C'est made in China, hein, c'est ça. C'est made in the US. Ça c'est le produit pur, n'est-ce pas, américain.
Voilà.
Et on a aussi les produits asiatiques. Hein, ça, on n'y échappe pas en général.
Voilà.
Donc tous ces jeux sont des jeux éducatifs.
Oui.
Et vous organisez également des événements. Peut-être vous pourriez parler de votre partenariat avec Akissi.
Oui. Donc, avec Akissi, ce que j'essaie de faire, c'est une partie des bénéfices des jeux doit repartir aux femmes.
Oui.
Donc, je réinvestis sur des femmes qui essayent de vivre de leur travail en Afrique. Donc, Akissi, comme vous avez entendu, elle est mère de deux enfants, malheureusement veuve, quand elle s'y attendait pas, parce que c'est un jeune mariage. Et donc, il faut qu'elles vivent et elles n'ont peut-être pas les qualificatifs pour travailler nécessairement dans un bureau, mais elles ont des qualités comme créer des poupées faites à la main à base de calebasse et des tissus africains qu'elles peuvent acheter sur le marché. Et la qualité de leurs poupées, parce que je travaillais avec d'autres pays avant, mais j'ai arrêté parce que la qualité a le standard des boutiques. Je revends ces poupées dans les boutiques fédérales ici, Smithsonian Museum Store, qui est les plus grands musées des États-Unis.
Oui, oui.
Donc, c'est quand même un niveau là où ils demandent beaucoup de précision, ils demandent beaucoup de qualité, et elle est capable de ressortir ça.
Oui, voilà. On le voit effectivement.
Oui.
On le voit. Et ce que vous précisez peut-être pas assez bien, c'est qu'en fait, vous gagnez pas vraiment votre vie avec ça, parce que vous faites beaucoup de donations, etc. Notamment pour les diabétiques dans votre pays, c'est ça, pour le diabète.
Donc, pour le diabète, j'ai un projet, il est encore en projet, d'établir une clinique pour diabétiques au Cameroun.
Okay.
Pourquoi ? Parce que mon fils ici a été diagnostiqué à l'âge de 2 ans. Et c'était vraiment surprenant pour nous parce que nous, on ne comprenait pas, je ne savais pas qu'un enfant peut être diabétique.
Oui.
Jusqu'à ce que j'ai eu le cas dans ma famille et j'ai imaginé que se passe-t-il au Cameroun, par exemple. Est-ce que les gens savent que les enfants... Bien sûr, on en trouve ceux qui sont diagnostiqués à temps, mais il y en a beaucoup qui meurent sans qu'on le sache. Donc, mon idée, c'était pouvoir avoir des fonds pour créer une clinique aussi pour les enfants.
Merci beaucoup, Paulette Mpouma. Le temps est passé. Merci beaucoup à Akissi Kouamédia à Abidjan, à Francine Mukwaga à Manchester. Merci à notre correspondante Sokna à Dakar, Jean-Louis Mafema, Georges Léonard Sagnou et Ashwan Kale à la technique. Sans oublier nos chers auditeurs, merci à tous pour votre écoute et la conversation continue sur le Facebook de VOA Afrique. Merci beaucoup pour vos commentaires. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. flat on your back, you look to the sky, you rise. We'll be right back.